Bonjour à tous les auditeurs de Radio Lapourdie et de Radio Présence Lourdes-Pyrénées. Nous retrouvons notre évêque, Monseigneur Marc Caillé. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Olivier Drapé. Vous
Bonjour.
êtes le responsable de l'information et de la communication du diocèse de Bayonne. Et nous enregistrons cette émission le 3 décembre, en la fête de Saint-François-Xavier, qui est un saint de chez nous.
Un saint de chez nous, dont les origines paternelles se trouvent dans la Basse-Navarre, s'il est navarrais par ailleurs.
Alors nous allons parler de l'actualité de l'Église en France. Nous aborderons aussi quelques sujets nationaux et internationaux. Et puis dans une dernière partie, nous évoquerons la vie diocésaine. Alors commençons par ce qui a occupé ces dernières semaines, c'est-à-dire l'organisation des messes publiques dans nos paroisses, avec notamment ce conflit qui a eu lieu entre le gouvernement et les évêques de France. Le gouvernement a donné une jauge réaliste pour les dimanches du mois de décembre. J'ai envie de dire tout ça pour ça, finalement, parce que on revient à la situation que nous avons connue au mois de juin, grosso modo, quoi.
Oui, c'est vrai. Hein. Alors, il ne faut pas minimiser quand même l'importance de ce conflit, comme vous dites, entre l'épiscopat, mais d'une manière générale, les cultes et le gouvernement dans la manière de gérer cette crise sanitaire par le gouvernement. C'est pas anecdotique, même si ça a pris beaucoup de place, et même dans nos préoccupations à nous, hein, pastorales, même si elles sont un peu réduites en ce temps de confinement. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres événements d'ordre national, d'ordre international, qui méritent aussi d'être soulignés. D'ailleurs, c'est ce que nous ferons au cours de cette émission. Mais la liberté de culte est une liberté fondamentale, et donc elle est emblématique de toutes les libertés fondamentales qui ont été d'une certaine manière menacées par la gestion de cette crise sanitaire, hein, au nom de l'argument sanitaire. Ça part apparemment d'une bonne intention, qui est le bien des citoyens, le bien commun, dont la santé est en effet l'une des composantes essentielles, mais qui n'est pas la seule et qui ne peut pas être érigée en valeur absolue. La santé est un bien utile, nécessaire, pour que l'homme puisse rejoindre sa fin, ses fins personnelles, qui sont bien au-delà de la simple santé physique, comme on le sait, mais elle n'est pas une valeur en tant que telle, qui aurait raison de fin. On ne vit pas pour rester en bonne santé, et d'ailleurs, on peut mourir en bonne santé, comme ça se vérifie chaque jour. Donc la liberté de culte qui était quand même attentée, et le gouvernement donc était d'une certaine manière hors la loi. Il fallait le prouver, et donc il fallait avoir le courage, je pense, de déposer une requête, qui est une démarche tout à fait citoyenne, au Conseil d'État, qui est la plus haute administration de notre pays, qui pouvait statuer sur la légalité ou non de ces mesures prises par le gouvernement. C'est pourquoi, après l'annonce d'une jauge à 30 personnes, qu'on a pu d'ailleurs prendre d'abord pour une farce, dans nos établissements de culte, dans nos églises et cathédrales, quelle que soit la taille des cathédrales, on imagine 30 personnes perdues dans la basilique souterraine Saint-Pédis à Lourdes. Mais non, ce n'était pas une farce, c'était une nécessité apparemment impérieuse qui nous imposait un principe qui ne tenait pas compte de la proportionnalité, alors que c'est un principe qui a été au contraire adopté pour toutes les autres activités qui recommençaient. Donc c'était important de pouvoir redire l'importance des libertés de culte qui a été en effet rappelée par le Conseil d'État, encore une fois la plus haute instance administrative de notre pays, et qui a demandé au gouvernement de revoir sa copie. Ça a permis sans doute de débloquer une situation dans laquelle on voit bien que le dialogue entre l'épiscopat français et le gouvernement était à sens unique. On nous demandait des protocoles sanitaires, mais on n'en tenait aucun compte, nous n'avions aucun retour, sauf une parole lapidaire, sans état d'âme, sans empathie pour les croyants, par le président de la République au cours de son allocution, puis confirmé par le Premier ministre. Donc je pense que c'est important d'avoir rappelé que la liberté de culte est essentielle, elle est le premier article de la loi de séparation des églises de l'État, et pour nous, elle est un droit naturel, hein, le droit inscrit dans la nature de l'homme de rendre un culte à Dieu. Et pour nous, le culte catholique est spécifique, il suppose non seulement un rassemblement, qui est une composante essentielle de la liberté de culte reconnue par le Conseil d'État, donc par la loi française, mais aussi d'être rassemblé autour du Christ présent réellement dans l'Eucharistie.
Vous considérez donc que l'Église a remporté une victoire sur l'État ?
Je ne pense pas que ce soit l'Église qui a remporté une victoire, c'est le droit qui a remporté une victoire. puisque nous sommes dans un état de droit qui est sans cesse exprimé comme tel, c'est la victoire du droit, et je dirais même la victoire du bon sens. Et je pense que là, pour le coup, tout le monde a été, je pense, assez unanime.
Vous êtes, Monseigneur Hayet, satisfait de l'annonce faite par le gouvernement le 2 décembre soir, donc hier soir, de demander aux responsables des cultes de laisser libre 2 sièges entre chaque personne ou entité familiale et de n'occuper qu'une rangée sur 2. Ça vous paraît satisfaisant ?
C'est un premier pas, parce qu'en effet, ça nous fait revenir à la première situation dans laquelle nous étions dans le premier déconfinement. C'est effectivement plus réaliste, parce que c'est plus proportionné à nos édifices. J'espère que ça n'est qu'un premier pas, que c'est susceptible d'évolution à partir du 16 décembre, où normalement, si la situation sanitaire le permet, comme l'a annoncé le Premier ministre, nous devrions sortir du confinement, et puis surtout pour Noël. Parce que Noël n'est pas seulement la fête commerciale, comme on le dit beaucoup aujourd'hui, et tant mieux pour les commerces, et je me réjouis pour eux d'avoir pu enfin rouvrir leurs portes, parce qu'eux aussi étaient au bord de la faillite, et même parfois de la désespérance et du suicide. Mais c'est une fête qui concerne quand même encore tous nos concitoyens. Nous savons que le soir de Noël, les Français se pressent dans nos églises en masse, donc peut-être que ça ne sera pas tout à fait comme ça, par la libre volonté des gens qui craindraient encore, mais j'espère quand même que ce sera une fête qui sera à la hauteur de ce qu'elle est pour les chrétiens et pour les Français.
Certains catholiques ont manifesté devant les églises et les cathédrales, certains évêques les ont soutenus, d'autres pas. Est-ce que ça va laisser des traces ? Il y a eu un débat aussi autour de la place de l'Eucharistie. Est-ce que ça ne va pas engendrer une modification de la pastorale de l'Église, peut-être pour travailler sur le sens et la place de l'Eucharistie dans la vie chrétienne.
Alors ça, c'est très important. Comme vous aurez remarqué quand même, c'est que ces manifestations sont souvent émanées des jeunes, de cette catégorie qui est en effet un peu en voie de disparition dans l'Église. Hein. On sait qu'il n'y a plus beaucoup de jeunes dans l'Église, mais ceux qui sont là sont suffisamment convaincus de l'importance de l'Eucharistie, pas seulement comme une espèce de rite dans lequel on va se réfugier hors d'un monde qui est tellement difficile. On voit bien que pour eux, c'est vraiment le sommet de leur relation avec le Seigneur qui s'accomplit dans une rencontre personnelle avec le Christ, présent sous les espèces eucharistiques. Ça, c'est le cœur de la foi catholique. Et on voit bien que pour eux, c'est la source d'un engagement dans le monde. Et ce sont les premiers, en effet, à aller à la rencontre des autres pour annoncer l'Évangile et surtout aussi pour avoir le souci des pauvres. Hein, les mêmes qui manifestaient pour la messe, d'abord ne sont pas des analphabètes spirituels, comme ça a été dit en haut lieu, mais ils sont tout à fait conscients de l'importance de l'Eucharistie comme mystère de foi. Ils ont été formés dans ce sens-là, ils l'ont demandé. C'est une génération qui est en quête de formation, on l'a vu dans les Journées mondiales de la jeunesse, avec Benoît XVI, avec Pape François, etc. Et en plus, ce sont ceux qu'on va retrouver dans les maraudes, qu'on va retrouver à Paris dans les hivers solidaires. Donc ce sont des gens qui ont vraiment un grand souci des autres. Et donc je pense que c'est un symbole très important pour les autres générations qui, plutôt que de dénoncer cette dérive identitaire chez des jeunes générations qui évidemment ne font pas partie de leur postérité sans doute, mais je pense que c'est un bel exemple prophétique que l'Église doit regarder avec beaucoup d'attention et doit encourager fortement.
Un mot sur l'assemblée plénière des évêques qui s'est tenue en visioconférence du 3 au 8 novembre. Quels ont été les sujets qui vous ont marqué, interpellé lors de cette assemblée des évêques ?
Alors ça a été à la fois un exercice difficile parce que passer 5 jours à raison de 4 heures par jour devant son ordinateur, c'est pas très très confortable évidemment. Ceci dit, ça nous a permis de nous voir, de nous retrouver au moins de manière virtuelle, mais de nous voir en tout cas, et de nous entendre. Je dirais que l'événement le plus important pour moi, c'était la première journée et demie, avec les invités que nous avions avec nous normalement à Lourdes, pour cette séquence sur l'écologie et tournée vers les réalités plutôt agricoles, cultiver la terre et se nourrir. Et il y a eu de très beaux témoignages, très beaux échanges. Et moi, j'étais content que j'avais deux fidèles, hein, dont un jeune qui est à l'initiative de ce jardin écologique intégral de Pau qui s'appelle les Fioretti et qui a pu participer avec beaucoup de profit à cette rencontre.
Un mot sur l'enquête publiée par la conférence épiscopale sur la santé des prêtres. Est-ce que les prêtres sont en bonne santé en France ?
Alors c'est vrai qu'en général, il serait en bonne santé, mais il y a quand même des petits signaux d'alarme. Seulement 42%, mais c'est quand même une belle proportion, des prêtres de la population totale du clergé ont répondu à cette enquête qui a eu lieu entre le 27 février et le 30 juin, de manière assez, assez fouillée. Ça veut dire certainement que il y a quand même une santé, une prévention en tout cas, qui est prise au sérieux par les prêtres. Il y a quand même quelques si la santé physique est plutôt satisfaisante, il y a quand même des phénomènes de burn-out, hein, pour moins de 2% des prêtres peut-être, mais enfin c'est quand même trop. Un état de santé psychique avec des états un peu dépressifs qui se repèrent ici ou là, qui sont liés sans doute à la solitude, à l'isolement du prêtre dans son lieu de vie, l'absence parfois de soutien pastoral au sein de sa communauté paroissiale. Ça touche d'ailleurs particulièrement la population des 40-60 ans, donc des plus jeunes de la fourchette. C'était en fait des prêtres de 30 à 75 ans qui étaient concernés par cette enquête. Et puis on parle aussi d'un peu de certains, d'un phénomène de surpoids, d'obésité pour certains prêtres qui alertent quand même. Et aussi un mésusage de l'alcool pour 2 prêtres sur 5. Donc ça veut dire certainement qu'il faut que nous soyons attentifs à tout ce qui peut conduire à ces dysfonctionnements de la santé dans la vie, l'hygiène de vie sans doute, mais la vie du prêtre au sein de la fraternité sacerdotale, au sein du presbytérium.
Suite à la démission forcée du cardinal Barbarin, un nouvel archevêque a été nommé à Lyon, vous le connaissez ?
Je le connais très bien, oui, c'était donc l'évêque d'Ajaccio, monsieur de Germay. C'est sûr qu'on a personne n'attendait cette nomination. Lui, le premier d'ailleurs, et qui a dit de manière très belle, j'ai d'abord cru que c'était une farce quand le nonce m'a annoncé ça. Et puis ensuite, je me suis dit, dans la Bible, souvent, c'est celui qui est le moins considéré, le plus petit, qui est choisi par le Seigneur. Je me suis dit, c'est qu'il y a un appel du Seigneur, donc il faut que j'y réponde. Il me donnera la grâce pour ça. Parce que la situation sera en effet difficile. Elle a été quand même abîmée par toute cette affaire autour du père Prénat.
Hein, qui a été condamné à 5 ans de prison, voilà. Il ne fait pas appel.
Il ne fait pas appel, je crois que c'est plutôt positif. Ça veut dire que il n'est peut-être plus tout à fait dans le déni. Mais bon, voilà, j'espère que ce sera un épilogue satisfaisant pour tous et que Monseigneur de Germay va pouvoir commencer son ministère en ouvrant une nouvelle page de ce grand diocèse de Lyon.
Nous vous retrouvons, Mgr Ayé, dans quelques instants pour parler de l'actualité nationale.
Présence à Bagnères-de-Bigorre, 88.9.
Oui, Mgr Ayé, l'actualité nationale ce matin, quand on écoute la presse, et quand on lit la presse et qu'on écoute les médias, tourne autour de la disparition de Valéry Giscard d'Estaing, qui a été président de la République dans les années 70 et jusqu'en 81. Et les médias insistent beaucoup sur son bilan politique, ce qu'il nous laisse, en particulier sur la loi sur l'avortement, la dépénalisation de l'avortement avec la loi Veil. Alors avec le recul, est-ce que ce bilan politique du président Giscard d'Estaing vous inspire des réflexions particulières par rapport en tout cas aux dérives qu'on observe aujourd'hui en France concernant le problème de l'avortement ?
D'abord, je pense qu'un homme d'État qui meurt, ça impose forcément le respect. Hein. C'est quelqu'un qui a été porté par les urnes jusqu'à la plus haute responsabilité de l'État. Donc c'est un devoir de piété qui fait partie du civisme que de rendre hommage à un homme d'État qui a quand même gouverné la France pendant 7 ans. Bien sûr qu'on ne peut pas être forcément d'accord avec tout ce qu'il a fait, et on ne peut pas réduire non plus un homme, ni son gouvernement et son action, à telle ou telle initiative plus ou moins heureuse qu'il ait prise. Alors on a salué, je crois, surtout dans la presse, l'homme de la modernité, et on comprend bien ce que ça veut dire modernité dans l'éloge qui lui est fait. Ce sont toutes les lois sociétales. Les évolutions sociétales conformes pour lui à l'évolution de la société qu'il a ouverte et qui depuis continue d'avancer. Donc ça a été la dépénalisation de l'avortement en 1975, mais comme une dépénalisation qui ne devait être qu'à titre d'exception. Et la loi portant dans son premier article le respect de la vie absolument, et sauf exception. Et aujourd'hui, ben, on voit bien qu'on est arrivé à on arrive quasiment à l'inscription dans la loi, ce qui n'est pas encore fait, mais qui est dans les mentalités, d'un droit à l'avortement. Donc c'est vrai qu'on peut penser que c'est un bilan qui s'aggrave un petit peu, bon, et même beaucoup. Mais voilà, je dirais aujourd'hui, la décence veut qu'on s'associe quand même à l'éloge national qui est fait un homme d'État, qui a marqué la France dans ces années. Moi, j'avais pas encore le droit de vote, puisque c'était en 1974. Et je me souviens qu'on s'occupait beaucoup de politique à l'école. Entre nous, on était passionnés par les débats politiques. Et moi, je défendais la candidature de Valéry Giscard d'Estaing.
Par ailleurs, Monseigneur, les médias se font l'écho d'un certain nombre de controverses, de polémiques. Il y a une controverse sur laquelle je souhaiterais revenir, c'est celle qui concerne le problème de la liberté d'expression, et en particulier, on en a beaucoup parlé il y a quelques semaines surtout, le prétendu droit au blasphème. Que pensez-vous de cette affaire du droit au blasphème qui a tourné autour, vous savez, de la publication ou de la republication des caricatures de Mahomet par Charlie Hebdo,
entre autres? Oui, blasphème au sens étymologique du mot, comme on le sait, ça veut dire offenser, hein. S'exprimer en offensant, et en particulier en offensant Dieu. Bon, ça n'a pas beaucoup de sens dans ce sens-là, dans notre société laïque ou sécularisée, où de toute façon Dieu n'existe pas, donc il n'y a pas de raison d'avoir un droit d'offenser Dieu, puisque Dieu n'existe pas. Donc ce serait une pétition de principe. Mais ceci dit, d'une manière générale, le blasphème, c'est compris comme, puisque ça fait référence en effet à ces fameuses caricatures de Charlie Hebdo, dont on sait qu'elles ont, indirectement, mais quand même, été la source de drames, hein, comme la décapitation de Samuel Paty, cet enseignant qui, pour parler de la liberté d'expression avec ses élèves, bah, montrait, mais je crois avec une certaine décence, ces caricatures de Mahomet sur de Charlie Hebdo. Je crois que la grande question, c'est celle-là précisément. Est-il possible d'être libre en permanence d'offenser les autres, hein, d'offenser autrui, hein, quand on sait qu'un droit, puisqu'on parle de droit blasphème, c'est ce qui est juste, le droit, hein, ius, c'est ce qui est juste. Or, la justice se définit par rapport à autrui. Donc à la relation à autrui, c'est donner à l'autre ce qui lui est dû. Par exemple, ben, la reconnaissance de sa dignité, de sa réputation, etc. Et donc si le blasphème est d'offenser quelqu'un sous prétexte de sa religion, en particulier, hein, dans une société où on se moque et on rit de tout, ben non, je ne pense pas que ce soit un droit. Ça n'a aucun sens de parler de droit. Mais si on dévie davantage de manière plus générale sur la liberté d'expression, eh bien, il y a eu un très beau texte qui a été commis par la conférence épiscopale au terme de notre dernière assemblée par vidéoconférence, qui relie la liberté à la fraternité. On est très fiers de notre devise républicaine, liberté, fraternité, égalité, fraternité. Eh bien, il n'y a pas de liberté sans fraternité. Il faut faire très attention que si la liberté d'expression conduit à diviser et susciter des tensions qui peuvent conduire à des violences, même si elles sont inexcusables, eh bien, c'est là qu'on se dit qu'il peut peut-être y avoir quelques limites à la liberté d'expression.
Monseigneur Hayet, le gouvernement a affiché son intention de combattre l'islam radical, beaucoup plus fermement qu'auparavant peut-être, notamment depuis l'attentat de Nice du 29 octobre dernier, qui a fait trois morts, hein, comme on le sait, à la basilique Notre-Dame de Nice. Il y a donc un projet de loi qui s'appelle projet de loi contre le ou les séparatismes, qui vise à renforcer la laïcité, à consolider les principes républicains. Que vous inspire cette volonté du gouvernement et ce texte de loi ?
Alors, qui ne s'appelle plus, je crois, hein, liberté, loi sur le séparatisme, qui s'appellerait plutôt la loi pour renforcer la laïcité et consolider les principes républicains.
Oui, tout à fait.
Hein, bon, parce que je pense que le terme, finalement, n'était pas forcément bien choisi. Voilà, c'est pour renforcer, comme son nom l'indique, la laïcité telle qu'elle est comprise, hein, Et c'est vrai qu'il y a un problème majeur qui est posé dans notre société par les dérives de l'islam, hein, donc ce qu'on appelle l'islam, l'islamisme ou l'islam terroriste, qui fait quand même, qui se réclame de l'islam, ça on peut pas dire autre chose, et qui cause quand même de grosses fractures dans notre société, qui accentue le communautarisme musulman, ça faut quand même le reconnaître, même si la plupart des musulmans intégrés et modérés ne se reconnaissent pas du tout dans l'islam, mais ils sont de toute façon quantité négligeable par rapport à cet islamisme qui présente malheureusement dans la société d'aujourd'hui par son omniprésence et sa violence terroriste, et ben le visage de l'islam. Donc c'est sûr qu'il faut régler cette question.
Mais est-ce qu'il y a besoin de faire toujours des lois dès qu'il y a un attentat ou dès qu'il y a des problèmes, de faire de nouvelles lois à chaque fois ?
Alors, en effet, parce que dans la question que vous posez, il y a cette idée que pour régler un problème qui concerne une communauté très particulière et encore au sein de cette communauté, une verrue qui s'appelle l'islamisme, donc le terrorisme islamiste, hein, qui est organisé dans notre pays, on le sait, dans certaines zones de non-droit, hein, qui est lié d'ailleurs à quantité de trafic d'armes et de drogue, eh bien, on risque de poser une loi qui, comme sa fonction l'indique, va être générale et appliquée à tous. Et donc, quand on veut renforcer la laïcité et consolider les principes républicains, eh bien, on va d'une certaine manière encore plus limiter et canaliser le fait religieux, alors qu'il s'agit d'une verrue et d'une excroissance du fait religieux. L'islam conquérant ou terroriste, voyez. Et donc ça veut dire que tout le monde va être logé à la même enseigne. J'en veux pour preuve les grands axes de cette loi. Par exemple, la fin de l'instruction à domicile. Bon, on sait bien que l'islam dans l'école publique en particulier est une chose qui n'est pas contrôlée et qui n'est pas gérée. On l'a vu d'ailleurs avec l'assassinat de cet enseignant Samuel Paty. On sait que les incivilités, comme on dit aujourd'hui, d'élèves qui se réclament de l'islam dans nos écoles publiques conduisent à des tensions, à des violences, à des manques de respect vis-à-vis des enseignants et de l'institution éducative. On sait qu'ils ne participent pas complètement aux valeurs de la République qui semblent être les seuls points de cohésion dans notre système éducatif comme dans notre nation. Et on sait que c'est là que se pose le problème. Et on répond par la suppression de l'instruction à domicile, qui est un droit des parents à éduquer leurs enfants, donc est une valeur non négociable, et qui ne concerne, si on ajoute les écoles complètement libres, qu'un pour cent de la population scolaire. Donc c'est se trouver face à un éléphant et s'attaquer à une souris. Donc je pense que ça, c'est pas juste, et je ne sais pas très bien quel est le principe qui se cache derrière cette... Ou alors on se cache derrière son doigt et on ne veut pas prendre à bras le corps cette réalité de ces groupes qui sont le lit du terrorisme au sein de nos écoles. Voilà, je pense qu'il y a... Et puis peut-être aussi que les associations soient plus encadrées. Donc nous sommes protégés, nous, par un régime, pour ce qui est du culte catholique, par des associations cultuelles, mais qui possèdent un statut particulier, hein, depuis 1920, même si en 1905, c'était pas tout à fait ça. Et on voudrait contrôler un peu plus les associations cultuelles, donc pour contrôler l'islam qui fait transiter des capitaux étrangers pour leur construction et leurs activités cultuelles au sein de notre nation, eh bien, on va contrôler tout le monde. Et nous aussi, nous risquons d'être encore un peu plus contrôlés dans l'exercice de nos libertés.
Monseigneur Hayet, nous poursuivons notre émission en parlant de l'actualité nationale et internationale. L'actualité nationale, c'est également un texte de loi dont il est beaucoup question, qui s'appelle « Loi sécurité globale ». Comme vous le savez, plusieurs centaines de milliers de personnes ont manifesté samedi dernier contre ce texte de loi, notamment d'ailleurs contre un article qui fait couler beaucoup d'encre, l'article 24, qui prévoit de pénaliser la diffusion malveillante d'images de policiers. Pour beaucoup de journalistes et pour une partie de l'opinion publique, surtout à gauche, c'est une atteinte aux libertés essentielles, la liberté d'expression, la liberté d'informer. D'une manière plus générale, est-ce que vous ne pensez pas que la gestion actuelle de la crise sanitaire par le gouvernement risque d'être le prétexte pour remettre en cause un certain nombre de libertés publiques ou de libertés fondamentales?
Oui, ça c'est évident que, comme je l'ai déjà dit, l'argument sanitaire justifie tout aujourd'hui. Hein, et on est capable de sacrifier la liberté à la santé en en faisant une valeur absolue. Hein, je pense par exemple à ce bon mot d'un philosophe qui n'est pas catholique pour le moins, puisqu'il se déclare athée, qui s'appelle André Comte-Sponville, mais qui compte beaucoup quand même dans le monde intellectuel français, qui dit « Je préfère attraper la Covid dans un état libre que d'y échapper dans un état totalitaire ». Ça veut donc dire qu'une dérive « totalitaire » entre guillemets est toujours possible dans cette manière de traiter les libertés fondamentales au nom de l'argument de la santé. Et c'est facile parce qu'on a tellement terrorisé les gens en leur faisant croire que c'est l'épidémie du siècle et on va avoir 400 000 morts. C'est le président de la République quand même qui l'a dit sans sourciller lors de sa dernière allocution « Si on ne fait rien ». C'est quand même tellement excessif que ça finit par terroriser les gens. Et puis les gens sont tellement dans la peur de la mort dans une société où on est quand même enfermé dans une culture immanentiste, fermée à la transcendance. On n'a pas beaucoup d'autres perspectives, précisément, que la mort. Et la mort, il n'y a rien après, hein, dans une société qui devient de plus en plus sécularisée. Et c'est vrai que la santé physique finit par devenir la valeur absolue. Et au nom de cette valeur, on est prêt à sacrifier beaucoup de libertés fondamentales, sans compter les conséquences dont on prend le risque et qui sont déjà sous nos yeux, que ce soit la crise économique, soit la crise sociale, les situations de solitude extrême qui ont grandi, 4 millions en France, on parle même d'euthanasie sociale, le million de Français supplémentaires qui, depuis le dernier confinement, est passé sous le seuil de la pauvreté, les états dépressifs qui ont augmenté de 20%, donc une santé mentale qui est complètement détériorée, et l'inquiétude, et puis d'autres pathologies qui n'ont pas été traitées, je crois que dans le rapport parlementaire sur cette gestion de la crise, ça a été souligné qu'il y a des pathologies de cancer, par exemple, dont les diagnostics ont été ajournés, dont les protocoles ont été ajournés et qui pourront faire jusqu'à 10 000 morts de plus comme conséquence de cette crise sanitaire. Donc voilà. Donc en plus, on ne regarde pas complètement. On est le nez dans le guidon et on a un pouvoir politique relayé complaisamment par les grands médias, qui vous oblige à regarder exclusivement cette épidémie comme quelque chose de tellement dramatique qu'elle est de fait, quand on perd un être cher du Covid, c'est évidemment comme quand on perd un être cher de maladie ou d'accident, c'est toujours un drame. Mais en même temps, il faut relativiser. Cette chose-là, sur 600 000 morts, 600 000 décès en France par an, 150 000 en moyenne qui meurent du cancer, c'est sûr qu'on n'est pas arrivé à de telles proportions, même si la contagiosité d'un virus qu'on maîtrise mal, mais pour lequel, de manière très surprenante, on a déjà des vaccins en quelques mois qui sont prêts, soi-disant, sans avoir suffisamment été expérimenté, sans qu'on ait suffisamment pesé et mesuré les effets secondaires. Et aujourd'hui, on est déjà passé à une campagne médiatique de vaccination, pas obligatoire. Hein, de
fait. Vous allez vous faire vacciner ?
Pour l'instant, moi, je ne pose pas la question. Je ne fais pas vacciner contre la grippe habituellement. Donc je ne pense pas que je me ferai vacciner comme ça contre la Covid. Je ne me précipiterai pas sur le vaccin, en tout cas.
Monseigneur Hayet, l'actualité, c'est aussi la vie internationale. Alors, je ne sais pas si vos responsabilités vous laissent le loisir de vous pencher sur l'actualité politique internationale, mais on a beaucoup parlé ces derniers temps des élections américaines aux États-Unis, de l'apparente victoire de Joe Biden, qu'on présente d'ailleurs comme un catholique, qui vient d'être conforté ou reconnu comme le prochain président des États-Unis. Est-ce que ça vous inspire des réflexions particulières ?
Moi, je suis pas souvent connaisseur, sans doute, de ce qui se passe aux États-Unis, mais j'entends et j'écoute pas mal de choses là-dessus. J'ai l'impression quand même que le parti démocrate aux États-Unis, comme on le sait, est le parti à la fois sur le plan sociétal qui serait plutôt de gauche, hein, mais qui sur le plan économique et le capitalisme libéral outrancier et qui est aussi le qui a la prétention de gouverner le monde, quoi, d'être le gendarme du monde. Trump a forcément ses défauts. C'est un personnage qui est un peu atypique, qui est outrancier par bien des aspects, mais qui, je crois, c'est le seul président qui n'a pas fait la guerre en dehors des États-Unis, alors que tous les autres sont partis faire des campagnes qui ont d'ailleurs été désastreuses, comme on voit en Irak, en Syrie ou ailleurs, ou en Afghanistan, et qui a augmenté le pouvoir d'achat des petits et des moyens, donc dans lequel les classes moyennes, qui sont souvent méprisées par cette espèce d'establishment bourgeois et capitaliste qui est et libertaire, qui est le fonds de commerce des démocrates aux États-Unis, il redonnait un petit peu d'espérance, je pense, à toute une classe oubliée de la population qui reste la plus nombreuse, mais qui est évidemment, comme partout, la moins nantie. Donc je suis pas plus... Je suis un petit peu dans l'expectative.
Vous auriez voté pour qui, vous, si vous aviez été américain ?
Je ne sais pas pour qui j'aurais voté. Alors, c'est vrai que Trump, il a... D'abord, je ne peux pas le dire parce que je ne vis pas aux États-Unis. Donc, je crois qu'il faut vraiment être aux États-Unis. Et si on suit les médias, les grands médias, on ne sait pas exactement ce qu'ils savent ou si ce qu'ils disent est d'abord inspiré par une idéologie, des principes idéologiques ou par la réalité de ce que vivent les gens. Je sais que Trump n'est pas un catholique, c'est un protestant, hein, baptiste je pense, ou évangélique, je ne sais plus, mais qui a été un président pro-vie, ça c'est sûr, qui l'a fait reculer certainement l'avortement, mais ce qui veut dire aussi que dans la majorité des Américains, il y a une régression de l'adhésion à cette loi pro-choice.
Il a voulu quand même construire un mur pour empêcher les
migrants. Oui, ça c'est sûr. Non, mais ça c'est vrai. De toute façon, on ne peut pas réduire un homme à une détermination politique ou pas. Vous remarquerez quand même que le président mexicain n'a pas tout de suite salué l'élection de M. Biden, ce qui est un peu curieux, parce que nous, c'est ce qu'on voit, nous, d'ici. Mais je ne sais pas, parce que ce mur, il avait déjà été construit.
Il peut paraître un peu inquiétant, c'est son refus de l'alternance.
Ce mur avait déjà été construit par Obama, il ne faut pas oublier ça. Ce n'est pas l'initiative.
Ce qui peut paraître un peu inquiétant, c'est son refus de l'alternance.
Peut-être qu'il y a des raisons qui le poussent à ça. Peut-être qu'il y a... Vous savez bien que le mode d'élection par voie électronique avait été abandonné en France, précisément parce qu'il est source, comme on le sait, de fraudes plus faciles. Donc peut-être qu'il y a des fraudes, mais j'en sais rien. Moi, je ne veux pas l'arbitre de tout ça. Ce que je sais, c'est que Biden se présente comme catholique, mais il promeut, pas seulement d'une manière... permissive, mais d'une manière formelle, l'avortement et l'avancée de toutes les lois sociétales un peu destructrices pour la dignité de la personne humaine, du mariage et de la famille.
Oui, Mgr Hayes, c'est d'ailleurs souvent, curieusement, à propos de cette question de l'avortement qui ressurgit finalement régulièrement, qu'il est question de la Pologne, où le tribunal constitutionnel récemment a remis en cause la possibilité d'avortement pour cause de malformation du fœtus. C'est également à propos du problème de l'avortement qu'on parle de l'Argentine avec un projet de loi qui entend dépénaliser l'avortement dans ce pays. Est-ce que ça vous surprend que cette question du respect de la vie finalement soit aussi centrale, notamment le problème de l'IVG, de l'avortement ?
Il est promu par des instances internationales. Hein. Il faut bien savoir qu'on n'appelle pas avortement, je crois qu'on parle de promotion des droits reproductifs. Et toute nation qui, de manière démocratique, considère que cette loi peut être nocive pour le bien commun d'une nation, en particulier dans l'ordre démographique, ne serait-ce que l'ordre démographique, pour l'Europe qui devient, comme le pape François le disait, une grand-mère qui n'a plus d'enfants, on a l'impression que là, il y a une espèce de dictature, on peut dire, internationale, qui remet en cause des décisions qui appartiennent à des États souverains. C'est vrai pour la Pologne en particulier, ou la Hongrie dans certaines conditions, où l'Europe prétend faire le forcing pour les obliger à. Ben oui, mais je veux dire, là, on ne respecte pas la liberté souveraine d'un État, que fût-elle partenaire ou membre de la communauté européenne. Pour l'Argentine, ben, on sait qu'en 2018, la population a rejeté cette légalisation de l'avortement. On remet ça sur le tapis, sous la pression de lobbies internationaux extrêmement puissants et extrêmement financièrement argentés. Et il y a des manifestations pour la vie qui rassemblent 2 millions de personnes à Buenos Aires. C'est quand même pas rien, à nouveau aujourd'hui. Vous voyez que le pape François, qui n'est pas allé visiter son pays natal, a même envoyé une lettre avec des mots qui sont d'ailleurs pas très diplomates. Et je reconnais que c'est pas forcément ceux qu'on emploierait. Mais qui dit carrément, est-il juste d'éliminer une vie humaine pour résoudre un problème ? Ça, c'est très bien, il a raison. Il le dit depuis le début. Est-il juste d'engager un tueur à gages pour résoudre un problème ? Ce sont des formules fortes quand même. Hein. Ça, c'est... Bon, voilà. Donc, je veux dire, le pape lui-même engage son autorité face à ce pays en disant, ben non, il faut soutenir les femmes qui défendent la vie et qui descendent dans la rue, etc. Il y a une idéologie qui colonise toutes les cultures dans le monde, toutes les nations. Le pape parle souvent de ça. Il dit, ben, on ne respecte plus l'identité culturelle d'une nation qui finit par être colonisé idéologiquement par des valeurs, comme on dit, qui lui sont étrangères.
Nous retrouvons Mgr Marc Caillé. Alors, avant de parler de la vie diocésaine, la Conférence des évêques de France a publié une déclaration en solidarité avec les habitants du Haut-Karabakh.
Et c'est sûr qu'on était tellement, nous, préoccupés par nos problèmes internes et aux problèmes occidentaux, hein, parce que vous aurez remarqué que, ou asiatiques, mais c'est déjà derrière nous, que beaucoup de pays du sud, de l'hémisphère sud, n'ont pas été touchés comme nous par cette crise mondiale et planétaire de la Covid-19. Mais qu'on en a oublié aussi des drames qui continuent de se passer et qui vaudrait bien aussi qu'on s'en préoccupe pas. Je pense en partie en effet au Karabakh, cette région qui se trouve dans l'Azerbaïdjan, soutenue par la Turquie, qui, bah, dans le rêve ottoman qui caractérise la Turquie, prétend conquérir cette partie. Et on sait bien qu'il y a une inimitié ancestrale entre les Turcs et les Arméniens. Et ça n'est pas sans nous rappeler le génocide arménien que la Turquie n'a toujours pas reconnu, ce qui est un drame absolu. Hein. Ça a été quand même un crime contre l'humanité assez gigantesque, qui a été reconnu en France par contre. Et ce Haut-Karabagh, qui en effet s'est constitué en 1991, s'est autoproclamé indépendant, donc cette partie de l'Arménie qui est composée de plus de 90% d'Arméniens, donc chrétiens, au cœur de cet Azerbaïdjan musulman et allié de la Turquie, n'était pas reconnu jusqu'à présent par l'ONU, mais dans ce drame, vous aurez remarqué qu'il a été quand même reconnu par la France, enfin par le Sénat, par l'Assemblée nationale, c'est à l'étude, par quantité de pays qui, du coup, ont décidé de reconnaître cette minorité opprimée, qui est comme rayée de la carte. De manière impunie par finalement la Turquie à travers l'Azerbaïdjan. Donc c'est quand même assez inquiétant, je pense, sur l'état de notre humanité, les divisions, les guerres qui peuvent naître et s'étendre aussi davantage, les conquêtes aussi, qu'on croyait complètement oubliées et auxquelles on n'est peut-être plus tout à fait attentif. En tout cas, il faut que nous soyons solidaires de ces minorités qui se trouvent en plus chrétiennes, qui sont opprimées.
Parlons du diocèse, Mgr Marc Caillé. Commençons par parler du nerf de la guerre, l'argent, puisque l'Église en a besoin aussi. Où en est la campagne du denier de l'Église ? Ce n'est pas une très bonne année, je pense, pour les ressources diocésaines.
Alors, paradoxalement, d'abord, si vous voulez, l'état des finances du diocèse, puisque nous avons l'Assemblée générale de l'association diocésaine au début du mois de novembre, ne sont pas trop mauvaises, hein, dans le sens que, au moins pour 2019, en tout cas, le denier de l'Église a sensiblement augmenté. C'est une bonne nouvelle. Ensuite, nous avons davantage maîtrisé notre budget de fonctionnement, et en particulier pour ce qui est de la masse salariale, qui est un peu plus maîtrisée. Bon, c'est vrai qu'il y a eu des départs à la retraite qui n'ont pas été remplacés. C'est vrai qu'il y a eu des postes qui n'ont pas été reconduits. Donc on a essayé de faire des efforts. Tout le monde a fait des efforts et ça a payé, si je puis dire, c'est le cas de le dire. Bon. Il reste encore des efforts à faire sur le plan de l'immobilier, hein, et de la rationalisation de l'immobilier, de la mutualisation de l'immobilier au sein des paroisses et des doyennés. Ça, je crois que c'est un gros effort à faire de solidarité, de fraternité, et de cesser d'être propriétaire de son petit lopin de terre jalousement conservé et entretenu. Mais ceci dit, si on n'avait pas eu le problème de la crise boursière, eh bien, on aurait eu un résultat positif cette année, donc ce qui est quand même encourageant pour l'avenir. Par contre, est arrivée évidemment cette année 2020 la question de la crise sanitaire, du confinement, etc. Et donc là, et puis surtout le confinement culturel, hein, parce que c'est un aspect qu'on ne peut pas non plus sous-estimer, c'est que les ressources de l'Église pour faire vivre la mission, entretenir nos bâtiments, donner un traitement décent aux prêtres, payer les salariés laïcs, qui sont quand même assez nombreux aussi, même s'ils ne sont pas si nombreux que ça maintenant, ça vient de la générosité et des dons des fidèles. Or, le denier de l'Église n'est pas en trop mauvaise posture à l'heure où je vous parle, donc nous ne sommes pas du tout là trop inquiets. Par contre, les quêtes ont fondu dans les paroisses, et ça va être un gros, gros manque à gagner.
Vous avez un chiffre ?
Alors, au niveau français, on parle de 50 millions ou 60 millions d'euros de moins, hein, donc c'est quand même énorme. Alors, je n'ai pas encore de chiffres concernant les paroisses, mais ce sera facile à calculer à la fin de l'année.
Donc, vous invitez bien sûr ceux qui n'auraient pas participé au dîner de l'Église à le faire avant le 31 décembre ?
Bien sûr. Donc, d'abord, le dîner de l'Église, c'est très important parce que c'est quand même, encore une fois, le nerf de la guerre, pour les personnels de notre Église, hein, prêtres et laïcs, mais pour les quêtes, et peut-être dans vos paroisses, de faire des dons pour compenser un peu ce manque de manne financière si importante pour la survie de la mission dans nos paroisses.
Le troisième dimanche de l'Avent, le 13 décembre, vous allez instituer deux nouveaux acolytes à la cathédrale de Bayonne à 10h30 lors de la messe dominicale.
Voilà, j'ai pendant le confinement, j'ai institué trois lecteurs au séminaire Redemptoris Mater, hein, donc à Anglette, et je vais donc instituer deux acolytes qui sont en troisième année de théologie, hein. Donc l'année normalement qui conduit au diaconat,
Fabien
Demey, Tamet et Louis Legrel.
Est-ce que le parcours Cléophas poursuit sa formation ?
Alors oui, K1KA, mais quand même, je suis très impressionné par la réactivité de l'équipe d'accompagnement et d'animation de ce parcours Cléophas, qui réussit quand même, malgré le confinement, à rassembler les troupes par visioconférence. Et moi-même, je vais donc participer samedi prochain à une rencontre avec les candidats du parcours Cléophas sur comment être disciple missionnaire dans ce contexte très particulier qui est le nôtre aujourd'hui, en pleine crise sanitaire et en particulier en période de confinement.
Parlons un peu du chapitre cathédral. Il ne reste plus que deux chanoines en lice, si je puis dire. Le chanoine Lagourgue et le chanoine Endard, ils sont âgés, ouais. Pourraient poursuivre cette institution qui existe depuis des siècles dans le diocèse.
Oui, et puis on sait qu'avant le Concile Vatican II, les chapitres avaient une importance et un pouvoir très important dans les diocèses. Aujourd'hui, c'est un pouvoir spirituel, c'est le pouvoir de la prière, hein, et c'est eux qui prient pour le diocèse. Et moi, je veux d'abord rendre hommage à nos chanoines, qui sont les deux derniers, hein, le chanoine Lagourgue et le chanoine Endard, qui sont d'une extrême fidélité, hein, à leur office, à leur charge de prière.
Ça consiste en quoi ?
Eh bien, tous les jours, ils assurent l'office des laudes et la célébration de la messe à 8h30 à la cathédrale. Et en fin d'après-midi, ils assurent les vêpres et l'office des lectures du lendemain. Donc c'est un office de prière qui est d'une grande régularité, d'une grande fidélité, et même quand l'un est au confessionnal, ben l'autre assume cet office tout seul. Donc ils le font au nom du diocèse, au nom de l'évêque et du diocèse, donc c'est quand même une belle charge. Alors comment voir l'avenir ? Ben, vous voyez bien que je ne peux plus compter sur des prêtres que je peux nommer comme chanoine au chapitre de la cathédrale, parce que ben, d'abord les générations... même les anciennes générations sont moins nombreuses. Et puis, il y a
mais plus... vous-même, vous étiez chanoine quand
moi,
vous étiez
chanoine. C'est pour ça.
À Fréjus-Toulon.
Voilà, c'est pour ça que je pense qu'il y a une autre manière de concevoir le chapitre cathédral. On était encore un des rares diocèses où on avait un chapitre de chanoine titulaire qui était astreint à l'office quotidiennement, habitant nécessairement dans le rayon proche de la cathédrale. Mais dans beaucoup de diocèses, le chapitre comprend des membres, on va dire, officiaux du diocèse, les grands officiers du diocèse, ça peut être le vicaire général, les vicaires épiscopaux, des curés doyens, quelques personnes importantes du clergé, si je puis dire, qui se rassemblent, qui n'habitent pas forcément dans la proximité de la cathédrale, qui ne vont pas pouvoir assumer cet office tous les jours, mais qui vont se rassembler une fois par mois autour de l'évêque pour l'office, et de manière très, très, j'allais dire, très, très symbolique, tout en montrant combien cette prière portée par le chapitre cathédral porte aussi la mission dans le diocèse.
Il faut s'attendre donc à une floraison de nouveaux chanoines.
Alors il faut s'attendre à une réforme profonde du chapitre cathédral.
Comment fêterons-nous Noël ? On ne connaît pas encore les conditions sanitaires qui nous permettront de célébrer la nativité dans nos églises. Vous, comment vous voyez la chose ?
Ben, moi, j'espère en tout cas que la jauge sera un peu plus optimiste encore pour la célébration de Noël et pour accueillir le plus de fidèles possible, avec les mesures sanitaires qui conviennent, parce que nous sommes aussi participants de cet effort de santé nationale pour endiguer cette épidémie. Et je souhaite aussi qu'on puisse donner à Noël, à travers la fête de Noël, un vrai message dans notre société un peu découragée, un peu terrifiée, un peu terrorisée et désespérée. Hein, je pense que Noël, c'est l'avènement du Christ qui vient pour sauver l'humanité. Il y a une hymne que l'on chante pour les vêpres, en latin, qui dit qu'il est venu sauver le monde fatigué, mundum languidum, le monde épuisé. Voilà. Ben, je crois qu'on a sous les yeux un monde épuisé, et ce n'est pas seulement la possibilité de fréquenter à nouveau les commerces qui semble être le point focal de cette fête de Noël aujourd'hui, qui pourra vraiment apaiser et donner de l'espérance aux citoyens français. Donc je pense que c'est important pour nous de ne pas rater cette occasion de donner un beau message d'espérance à travers notre désir de célébrer Noël de manière la plus digne possible.
Il y a 12 ans, vous étiez ordonné évêque de Bayonne, Escaréau-Lauron, à la cathédrale Sainte-Marie de Bayonne.
Oui.
Voilà, donc ça fait 12 ans que vous nous supportez, que nous vous supportons. On peut dire les choses comme ça.
Oui, c'est le support mutuel.
C'est Jean Saint-Paul, supportez-vous les uns les autres.
Mais j'espère qu'on se supporte au sens d'être des supporters les uns des autres.
Toujours content d'être dans ce diocèse.
Toujours heureux, j'ai été ordonné sous les trompes d'eau, mais je ne suis pas noyé.
Merci Monseigneur Marc Caillé, merci Olivier Drapé, très bonne fête de Noël et préparation à la fête de Noël à toutes et à tous.